Religion du monde, Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au sommaire de Religion du monde, la sortie d'un livre collectif, Le 21e siècle du christianisme, un ouvrage dirigé par Dominique Régnier qui invite le lecteur à une réflexion renouvelée sur le lien entre religion et politique, en l'occurrence entre le christianisme et la démocratie. Également la sortie de la nouvelle revue Philadelphia, à la présentation et au contenu décapant, qui à un an des présidentielles cherche à faire entendre la voix des catholiques en politique. Et puis en cette sortie progressive de déconfinement, quel sens donner à la pandémie de Covid ? Et Dieu dans tout ça pose sur un ton un peu provocateur Jean-Pierre Denis dans son livre « Les catholiques, c'est pas automatique ». Et on ouvre avec vous Dominique Régnier, bonjour.
Bonjour.
Je précise que vous avez créé en 2004 Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique, qui est un lieu de recherche, de débat et aussi de proposition. Alors, ce livre collectif que vous avez dirigé, donc le 21e siècle du christianisme, aux éditions du CERF, qui rassemble les experts des différentes branches du christianisme, mais aussi de la laïcité, entend souligner effectivement déjà quelques points de controverse, notamment... Je pense à la sécularisation. On dit aujourd'hui beaucoup qu'en Occident, la sécularisation va galopant. Vous, au contraire, vous dites ben finalement non, la religion demeure une dimension essentielle des sociétés. C'est même votre première phrase, Dominique Régnier.
En effet, vraiment, oui. Et c'est très étonnant pour moi d'abord, parce que je suis professeur à Sciences Po, donc j'évolue dans l'univers des sciences sociales, avec notamment cette assurance d'une tendance des sociétés modernes à la sécularisation, entendue comme déclin du religieux, disparition du religieux, donnée comme un horizon inévitable pour les sociétés développées, parce que la science, parce que la confiance dans le progrès humain, la capacité des hommes à résoudre des problèmes sans faire appel à la magie ou à des puissances métaphysiques ou extramondaines. Tout ça a convaincu le savoir occidental de la fin du XIXe siècle que nous allions vers un monde sans religion. Et quand on regarde à partir des mêmes sciences sociales d'aujourd'hui, il y a des travaux qui sont menés notamment dans la quantification des pratiques et des croyances, on voit exactement le contraire. Donc, ce n'est pas une petite révision du modèle, c'est une mise en interrogation fondamentale, parce qu'il y a dans le monde d'aujourd'hui, alors le chiffre peut faire sourire parce qu'il est précis, mais enfin, puisque ce sont des études, il y a des chiffres précis qui en sortent, 84% des adultes sur la planète déclarent une affiliation religieuse. C'est massif. Et quand on regarde plus précisément le taux de fécondité par croyance et par non-croyance, on voit que les religions portent les taux de fécondité les plus élevés, tandis que les personnes qui ne sont pas affiliées à une religion dans le monde ont le taux de fécondité le plus bas. Pour l'illustrer, c'est 1,6 femmes par enfant dans le monde des non-croyants, c'est 2,3 femmes par enfant dans la société hindoue, 2,9 chez les musulmans, 2,6 chez les chrétiens, j'arrête là, mais... on voit que le phénomène religieux est porté par sa propre croissance démographique. Et donc, même si la démographie est appelée à des bouleversements qui semblent nouveaux et un déclin peut-être plus rapide qu'on l'avait imaginé pour l'ensemble de la démographie humaine, il n'en demeure pas moins que dans les décennies qui viennent, nous n'aurons pas moins mais plus de croyants et nous ne verrons pas de notre vivant, même si nous naissons maintenant, nous ne verrons pas le recul ou le déclin du religieux.
Alors, restons quelques instants encore dans les chiffres, Dominique Régnier. Donc, le christianisme, 2,3 milliards, 31% oui, dans le monde.
Exactement.
L'islam, les musulmans, 1,8 milliard, 24%. Oui. Cela dit, en 2035, il y aura plus de naissances dans le monde musulman que chez les chrétiens.
C'est ce que l'on pense en projetant aujourd'hui les données. Mais à ça... il faut introduire deux dimensions qui sont particulières. Alors, j'aimerais les expliquer clairement en peu de mots. Quand on fait une enquête sur les affiliations religieuses, on interroge en fait les individus et ils nous répondent. Mais souvent, dans les sociétés à religion musulmane, on a affaire à des sociétés très disciplinées, voire disciplinaires, voire autoritaires.
Oui, les gouvernements autoritaires, oui.
Voilà, la religion n'est pas un choix d'abord, c'est l'islam. point, on ne peut pas en sortir.
Religion d'État, oui.
Voilà, c'est la religion d'État, et il y a un contrôle social extrêmement fort, et donc là, vous pouvez dire que tout individu qui naît dans ce pays est un musulman, mais ce n'est pas la même chose que la possibilité dans une autre société, par exemple, prenant la même religion, mais en France, vous pouvez être musulman si vous le souhaitez, et ne plus l'être si vous ne le souhaitez pas, même si ce n'est pas toujours facile. Et donc, la valeur de la mesure n'est pas la même, si bien que je fais l'hypothèse qu'on surestime le nombre de croyants musulmans par cette raison-là. Et la deuxième observation que je ferai, elle est que des travaux plus récents, notamment une grande enquête menée par la BBC, que je cite, ainsi qu'un travail mené par un sociologue algérien que je cite également, ça c'est pour l'Algérie, la BBC c'est pour le monde arabe en général, montre un développement de l'athéisme dans le monde arabo-musulman et notamment le souhait de ne plus être mêlé à des affaires religieuses. Et en particulier chez les jeunes générations, ça prend des proportions qui sont véritablement significatives.
Oui, il y a la
donc
question,
on ne peut pas
oui.
non plus exclure qu'il y ait un développement qui se maintienne et que dans le futur, il y ait un retrait parce que l'islam, comme le christianisme, comme toutes les religions et comme tout d'ailleurs dans ce monde d'aujourd'hui, l'islam est traversé par des bouleversements liés à la globalisation.
Mais puis il y a à la fois effectivement cette aspiration à la liberté personnelle, mais il y a aussi les conséquences du terrorisme islamiste qui touche beaucoup, hein, majoritairement le monde musulman. Et ça, ça joue dans la montée de l'athéisme hein, dans les
Absolument.
Pays arabo-musulmans.
Absolument. Il y a une forme d'accablement d'ailleurs d'une très grande partie du monde musulman face à cette utilisation épouvantable de la religion, cette instrumentalisation effrayante de la religion. Et comme vous l'avez très bien dit, ça se mêle à un mouvement de libération des peuples contre des États autoritaires qui instrumentalisent la religion, comme on l'a toujours fait hein, dans l'histoire, pour asseoir leur autorité ou conforter leur pouvoir. Et de cette manière, c'était contenu aussi dans les printemps arabes. Bon, voilà, on a, c'est encore très présent dans le Irak algérien. On voit ça aujourd'hui de manière très, très prégnante comme mouvement de transformation. Et ce n'est pas fini. Il y aura des suites à ces mouvements d'émancipation.
Alors, Dominique Régnier, vous soulignez très nettement hein, dans la partie du livre que vous signez, donc ce livre, Le 21e siècle du christianisme aux éditions du Cerf, que le christianisme et la démocratie ont partie liée, sont l'un et l'autre, le destin de l'un et de l'autre est lié.
Oui, parce que la démocratie a besoin d'un politique séparé du religieux. Parce que la démocratie vit de liberté, de responsabilité. Et si le religieux est sous contrôle du politique, alors la religion devient une affaire d'État et nous ne sommes plus dans un régime démocratique. Le christianisme est une doctrine de la séparation du politique.
Pourquoi ? Parce qu'il faut, comment dirais-je, remettre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui
Exactement.
Est à Dieu, c'est ça ? C'est ça ?
Exactement.
C'est cette phrase-là.
Parce que
oui.
C'est cette phrase-là, c'est la phrase de Jean, « Mon royaume n'est pas de ce monde ».
C'est dans l'ADN du christianisme pour vous.
Voilà, c'est dans la construction même du propos. On peut œuvrer à l'amélioration du sort de l'humanité, mais on ne va pas se diriger vers un pouvoir chrétien du théologico-politique, puisque mon royaume n'est pas de ce monde, ça se passera ailleurs, ça se passera plus tard. Ici, on se contente de vivre en chrétien pour améliorer le sort des humains. Et on laisse les princes gouverner, voilà. Et donc, c'est une rupture immédiate avec le théologico-politique, qui par contre est interne à l'islam. Donc ça c'est une grande difficulté, une grande discussion passionnante et importante que nous devons avoir avec l'islam, puisqu'il pourra y avoir un islam apaisé dans le monde démocratique quand il y aura cette conviction partagée que le religieux et le politique doivent être séparés. Ce n'est pas un petit effort qui est demandé à la doctrine musulmane, hein. C'est tout à fait fondamental, mais c'est indispensable pour la démocratie.
Et selon vous, Dominique Régnier, le déclin de la culture chrétienne, qu'il faut quand même constater actuellement, ce déclin, précisément, est une menace pour la démocratie.
Alors, c'est vrai pour la France, c'est moins vrai pour les démocraties européennes environnantes, qui sont beaucoup plus engagés dans le christianisme que nous le sommes, nous, en France. Et sans doute qu'en France, nous avons un modèle qui, par sa singularité, la laïcité française, hein, a davantage ramené les religions sur les marges, je dirais, de la visibilité, tandis que dans les autres pays démocratiques, quelle que soit la forme, mais dans l'espace européen, pour prendre un univers de comparaison possible, la religion est malgré tout beaucoup plus importante. Et c'est aussi parce que nous avons, particulièrement en France, dans un modèle qui est celui de la laïcité, nous avons engendré, nous avons voulu, nous avons donné notre accord à une société acculturée sur le plan religieux, où donc il y a une rupture de la transmission des traditions ou des cultures religieuses.
Oui, acculturée et aussi où le multiculturalisme donc se développe. Et vous dites très clairement que ce multiculturalisme, finalement, pourra amener à une désécularisation. Expliquez-vous, ce sera ma dernière question.
Absolument. Il me semble en effet qu'on voit des processus de désécularisation, c'est-à-dire de réaffirmation ou de retour du religieux là où il s'était effacé, avait disparu, s'était affaibli. Le cas le plus spectaculaire est celui de la France, puisque nous étions censés en avoir presque fini avec la religion. Le christianisme n'a pas disparu, mais l'islam, entre-temps, est arrivé. L'islam se développe parce qu'il y a plus de musulmans qu'auparavant en France. C'est un des phénomènes, une des conséquences de l'immigration et des descendants de l'immigration. Et évidemment, l'islam étant en soi une religion du théologico-politique et non pas une religion de la séparation, il n'y a pas de séparation dans la religion musulmane, eh bien cela fait rentrer non seulement plus de religions dans nos sociétés sécularisées, cela fait revenir la visibilité de la religion dans l'espace public, les questions autour du foulard, autour des régimes alimentaires, etc., etc. Cela fait revenir les conflits interreligieux. Alors, les conflictualités sont encore de basse intensité, mais nous avions perdu cette conflictualité, en tout cas, dans la plupart des pays européens, en France singulièrement. Et puis, cela remet en question l'autonomie du politique par rapport au religieux. Il y a une interrogation sur l'acceptation par les musulmans de la supériorité de la loi républicaine sur la loi religieuse, les préceptes du Coran. Et ça, c'est le point sur lequel il y a une véritable remise en question tendancielle. On voit bien que la plupart des contentieux qui portent sur la religion depuis quelques années sont principalement concentrés sur cette contestation de fait par une partie des musulmans de la neutralité de l'État vis-à-vis de la religion et de son indifférence à la nature de la doctrine.
Je vous remercie, Dominique Régnier. Je rappelle donc que vous avez dirigé l'ouvrage collectif « Le 21e siècle du christianisme » et c'est publié aux éditions du Cerf. Je vous remercie. La naissance d'une revue est toujours à saluer. Philadelphia est la dernière née au sein de la sphère catholique. Philadelphia, en grec, veut dire l'amour du frère. Sortie en ce printemps 2020, à un an des élections présidentielles, cette revue annuelle du groupe Première Partie entend lancer une réflexion au-delà de la sphère catho sur les défis auxquels le politique, la politique, les politiques devront répondre dans cette campagne à venir. Une maquette claire, originale, une palette très éclectique d'intervenants, du champion de foot international à un entretien avec Marlène Schiappa, la ministre chargée de la citoyenneté, en passant par la profession de foi républicaine d'un évêque, pour décliner sous toutes ses formes la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité, la couverture ». Avec nous dans ce studio, le père Bertrand Auville, fondateur de la revue et directeur de la rédaction, et Charlotte Reynaud, la rédactrice en chef. À vous deux, bonjour.
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 Et c'est un plaisir de recevoir deux invités en studio, ce qui n'était pas le cas ces mois précédents. Alors, père Bertrand Auville, vous êtes curé à Vanves, vous avez 48 ans, et cette revue, en fait, est née d'un think tank auquel vous appartenez, alors un think tank en français, on va parler en français.
Allons-y.
Un groupe de réflexion, donc, né dans le diocèse de Nanterre.
Voilà, effectivement, je suis prêtre depuis un peu plus de 20 ans, et depuis 6 ans, l'évêque m'a confié une mission de relations entre l'Église et le monde politique sur notre territoire des Hauts-de-Seine, qui, pour que nos auditeurs situent bien les choses, est à l'ouest de Paris, la première banlieue, première couronne de la banlieue parisienne.
Et donc ce groupe se réunissait régulièrement?
Voilà, donc ensuite, au sein de ses activités auprès du monde politique, est née l'idée de créer un think tank, un groupe de réflexion, pour essayer de traiter un sujet au long cours. En l'occurrence, nous sommes saisis de cette devise républicaine avec un objectif qui était, ou une intuition en tout cas, qui était de se dire que cette devise était quelque peu affadie et que nous aimerions voir si la tradition chrétienne pouvait redorer en quelque sorte le blason de la République française.
Revisiter donc cette devise républicaine.
Voilà, en chacun de ces termes, la liberté, l'égalité, la fraternité.
Charlotte Reynaud, vous étiez professeur de lettres.
Oui.
Et aujourd'hui journaliste.
Oui.
Donc vous avez travaillé pendant près d'un an sur Philadelphia.
Tout à fait. J'ai rejoint le groupe Philadelphia quand le père Bertrand a souhaité faire une revue. Et mon travail, ça a été de transformer leurs idées, leurs conclusions, leurs ambitions en un format presse.
Alors c'est très intéressant parce qu'effectivement, je parlais d'une palette très éclectique. On a un champion de foot, on a une Miss France, on a des reportages, on a des interviews imaginaires avec des héros de la République. Hein, ça peut être Victor Hugo, etc. Beaucoup de pas de côté.
Oui, c'est vraiment ce que je voulais faire. C'est peut-être un reliquat de mes années d'enseignement, mais je voulais intéresser mon lecteur. On n'écrit pas pour se faire plaisir, on écrit pour interpeller notre lecteur, lui donner de quoi réfléchir, de quoi penser différemment. Et mon idée, ça a été effectivement d'imaginer ce MOOC comme un apéro dînatoire, j'ose le mot, c'est-à-dire qu'il y aurait beaucoup de choses sur la table. Et les gens vont picorer là où bon leur semble. Je suis très contente que vous ayez mentionné ce que j'appelle les fictions littéraires. Ça aussi, ça me tenait vraiment à cœur en tant qu'ancienne professeure de lettres, puisqu'en plus, nous avons un professeur agrégé dans l'équipe. Nous avions donc la légitimité de le faire. J'ai vraiment eu cette envie de donner des pages à la littérature.
C'est ça, interviewer donc des héros de la littérature, hein, du 19e siècle par exemple,
oui,
pour donner à penser aujourd'hui.
Exactement, et puis ça va aussi dans cette idée que les mots ont un sens et que retrouver le sens des mots, c'est extrêmement important. Et qui peut mieux le faire qu'un grand auteur de littérature comme Victor Hugo ou Charles Péguy?
Alors, retrouver le sens des mots, bon, celui de la liberté, c'est d'ailleurs dans votre édito, hein, père Bertrand Auville. Bon, vous dites très clairement, la devise républicaine, elle est affadie.
Elle est affadie, c'est-à-dire qu'elle est devenue un peu un slogan, ou en tout cas une sorte d'incantation. C'est-à-dire que il y a eu quelques épisodes dans notre vie politique des années dernières où quand un homme politique de haut vol ou de premier rang ne sait plus quoi dire, il brandit la devise républicaine un peu comme un ultime étendard que l'on va agiter face à des contradicteurs de la République, qu'ils soient réels ou imaginés. En tout cas, c'est bien dommage parce que nous sommes chrétiens et la religion du Dieu fait homme, de la parole faite chair, a du poids, comme Charlotte Reynaud vient de le dire. Les mots ont du poids et je dirais aussi l'histoire a du poids. Et nous avons voulu, à travers ces fictions littéraires que vous dites, à travers ces portraits, donner une trame narrative, c'est-à-dire que ces mots ne sortent pas de nulle part. Ils ont été érigés en système de devise républicaine dans la Révolution française, période qui n'était pas très encline à écouter la foi chrétienne. Et cependant, ouvrons la Bible, et dans la Bible, la liberté, il y en a des pages entières, il y a même des récits épiques de la libération du peuple juif d'Égypte pour le conduire en terre promise. L'égalité et la fraternité, c'est d'une actualité brûlante dans notre Église catholique. S'il ne fallait que citer ce texte, parlons bien sûr de l'encyclique Fratelli Tutti du pape François.
Manifestement, vous voulez absolument vous soustraire au clivage traditionnel catho de droite, catho de gauche.
Oui, parce que d'abord, je pense que les choses sont beaucoup plus subtiles que cela.
Ça a bougé.
Et puis, les chrétiens doivent être des passionnés de la politique. Parce que quand on est passionné de la politique, on est passionné de l'homme dans son mode de vie, dans son lieu de vie, dans son cadre de vie.
Dans son organisation.
Dans son organisation sociétale, bien sûr. Et l'organisation de la vie, elle n'est ni de droite ni de gauche. On peut aller d'un sens ou d'un autre, mais les chrétiens n'ont rien à gagner, à mon avis, à être partisans. Ils ont au contraire toujours à rappeler qu'ils ne défendent pas leur propre cause, mais qu'ils sont au service de l'intérêt général ou, s'il faut le dire avec le langage de la tribu, du bien commun.
Est-ce que c'est une ligne difficile à tenir, Charlotte Reynaud, que cette ligne-là, sortir du clivage traditionnel, j'allais dire droite-gauche?
En tout cas, c'est un équilibre à trouver. Et donc, l'équilibre sur 112 pages, il se fait pas le premier jour. Donc, on a eu plusieurs étapes où, à un moment, on s'est dit, oulala, dans quel sens on va? Et donc, à chaque fois, tout mon travail, tout notre travail, et notamment celui de l'éditrice aussi, c'était de dire, attention, on penche d'un côté, alors on va remettre un point d'équilibre. Mais c'est aussi possible, parce que comme on est sur un travail d'un an, on peut s'extraire de la polémique, du côté immédiat, de la tambouille aussi politique. Et puis, on a aussi eu recours donc aux pages littérature, mais aussi à des articles d'histoire qui permettent de prendre du recul et à des héros qui sont inspirants. Et là aussi, c'est pour prendre de la hauteur. Donc, on a à la fois pris du recul, pris de la hauteur. Et au final, ça nous a permis de sortir, en tout cas, d'une ligne qui aurait été purement politique.
Et d'ailleurs, il y a des lignes tout à fait partagées. Là, je pense à l'interview, à l'entretien que vous a accordé Marlène Schiappa, donc la ministre en charge de la citoyenneté. Finalement, je retrouve dans son discours beaucoup de lignes que vous défendez. Quand elle dit, par exemple, qu'il faut créer des modèles positifs et inspirants, hein, puisqu'elle a créé ce qu'elle appelait les prodiges de la République, hein, c'est cette récompense décernée pour des actions solidaires. Eh bien, vous, c'est pareil, finalement. Vous aussi, vous cherchez des modèles inspirants dans ce numéro de Philadelphia, père Bertrand Auville.
Oui, oui. Vous savez, les modèles, c'est comme les saints. Il faut avoir un rapport distancié. C'est-à-dire que si le modèle est trop bon, trop élevé, je dirais même un peu trop perché, alors on l'admire, mais on ne peut pas le suivre ou on ne peut pas le dupliquer. Et s'il est trop mauvais, on n'a pas du tout envie de le suivre et on a bien raison de ne pas le faire. Donc je pense qu'il faut avoir des modèles qui soient inspirants. Et à chaque fois, quand il y avait un portrait dans cette revue, il y a aussi l'actualité de ce héros du passé dans l'actualité présente de la vie de nos frères.
Un exemple?
Eh bien, par exemple, on a cité Madeleine Danielou. Il y a un portrait de cette grande éducatrice du début du XXe siècle. Et aujourd'hui encore, il y a un certain nombre d'établissements scolaires, notamment en Île-de-France, mais également à l'étranger. Je pense au Tchad, qui s'inspire du projet pédagogique de Madeleine Danielou. Et donc, nous avons interrogé un enseignant de cet établissement scolaire aujourd'hui.
L'histoire est très présente dans ce magazine, parce qu'il n'y a pas de présent, pas d'avenir, sans racines. Je vous pose la question, Charlotte Reynaud.
Oui, tout à fait, c'est une conviction. Bon, en plus, le père Bertrand est de formation, il est historien de formation aussi, mais tout à fait, on a vraiment cette idée qu'il y a des racines, toujours dans cette idée de renouer avec la puissance des termes de la devise républicaine. On est même allé voir Michel Zinc, qui est pourtant
académicien,
spécialiste de la littérature médiévale, du Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge aussi, on trouve un éclairage très pertinent des termes de la devise.
De même, vous parlez du Panthéon, très important, père Bertrand Auville.
Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Oui. Et Mgr Rouget, que nous avons emmené faire une déambulation dans le Panthéon, rappelle que c'est aussi un haut lieu de l'histoire de France, mais de l'histoire chrétienne, puisque c'est le lieu de Sainte Geneviève, patronne de Paris, patronne de Nanterre, cette petite fille de rien du tout qui a été capable de mobiliser ses propres énergies et celles de ses affidés pour être celle qui allait bouter l'envahisseur hors de Paris.
C'est pour vous inscrire en faux par rapport à une tentation actuelle qui serait celle de l'amnésie. Je vous pose la question, Charlotte Reynaud.
Oui, tout à fait. Cette idée, c'est aussi de se réconcilier peut-être avec cette histoire qui est riche. L'histoire, c'est toujours complexe, mais la connaître, ça permet aussi peut-être de dépassionner des débats. Et en tout cas, encore une fois, nous, notre volonté, c'est de redécouvrir la beauté et la force de la devise républicaine. Et donc, effectivement, ça passait aussi par la redécouverte de grands modèles républicains.
Alors, pour la liberté, je reviens effectivement à cette devise. Pour la liberté,
Moi, j'ai retenu plusieurs réflexions. La liberté, la loi rend libre. La liberté ne doit pas être libertaire ni exclusivement libérale. Alors là, on est dans un programme à la fois sociétal et économique, Bertrand Auville.
On en parlait tout à l'heure, c'est le poids des mots. C'est-à-dire que le poids des mots est de l'héritage. Beaucoup de nos auditeurs, peut-être, ont fait un peu de philosophie en classe de terminale et on nous a appris que la liberté, c'était la liberté de choisir. Alors, c'est je peux aller à gauche ou à droite, je peux m'asseoir ou me lever, je peux prendre fromage ou dessert. C'est bien, mais ça n'est pas le seul sens de la liberté. La liberté, à la sauce judéo-chrétienne, c'est la liberté de celui qui se sait libéré d'une situation d'oppression, d'une situation d'esclavage, d'une situation non enviable, et qui, à travers un parcours personnel et qui le transcende, va arriver vers une terre promise, une terre de liberté, une terre où il fait bon vivre pour tous.
Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un manuel anti-mai 68 ?
Ah non, on se positionne pas comme ça. C'est plutôt effectivement revisiter les mots et le sens de l'histoire. Vous savez, je pense que nous sommes tous des héritiers. Et il faut avoir un bon usage d'un héritage. C'est-à-dire qu'il faut recevoir du passé avec gratitude et reconnaissance ce qui nous a été transmis gratuitement, sans qu'on le mérite. Mais il faut aussi faire sien cet héritage pour en vivre et le transmettre d'une autre manière à la génération suivante.
Charlotte Reynaud, vous évoquiez il y a quelques instants Michel Zinc, donc l'académicien. Alors, concernant la liberté, moi j'ai retenu, aujourd'hui la liberté, c'est l'injonction à l'épanouissement personnel.
Oui, bah c'est ce que explique le père Bertrand, c'est ce qu'on a retenu peut-être de nos classes de terminale. Effectivement, je pense qu'il y a vraiment cette idée aujourd'hui du moi-je, j'ai le droit de faire. Marlène Schiappa aussi...
Elle
en parle, elle a dit que il y avait une grande revendication à avoir des droits, un peu moins de devoirs. Donc elle nous a aussi parlé de ça, cette idée de la liberté qui serait juste de la jouissance. Et nous, en retrouvant le sens du mot liberté, évidemment, on s'éloigne de cette définition, ça c'est sûr.
Marlène Schiappa, effectivement, qui dit, là je reviens aux modèles inspirants dont qu'elle a mis en avant, et elle rappelait que elle avait été critiquée à ce moment-là pour cette initiative, et elle disait aujourd'hui, pour être cool, il faut être cynique. C'est effectivement le cynisme aujourd'hui est à combattre. Là, je fais un pas de côté un peu, mais dans cette réflexion-là, il y a quelque chose effectivement à creuser.
En fait, le cynisme ne construit rien, il détruit.
Oui.
C'est-à-dire qu'on se construit sur les débris de celui dont on se moque. C'est très cynique, si je puis dire.
Donc, mais on le voit beaucoup beaucoup chez des humoristes, notamment.
Bien sûr, oui. Alors, quand c'est des humoristes, ma foi, c'est leur métier. Quand ce sont des hommes politiques, c'est moins bien, parce que malheureusement, quelquefois, je crains que ça ne cache la vacuité d'un programme.
Vous écoutez Religion du Monde. Nos invités sont le père Bertrand Auville et Charlotte Reynaud pour le magazine Philadelphia. Égalité. Égalité, une passion française. Égalité, oui. Égalitarisme, non. C'est ce que je retiens, Bertrand Auville,
Bravo, vous avez bien lu et bien compris. L'égalité, c'est sans doute le maillon faible de la devise. C'est sans doute le mot qui pose le plus question. Parce que on aimerait le remplacer par effectivement cette forme d'égalitarisme qui peut conduire à bien des excès.
L'égalité, c'est une idéologie, l'égalitarisme,
oui,
pour vous ?
Oui, ça peut le devenir, ça peut devenir tyrannique.
Oui.
Le problème, c'est que le contraire de l'égalité, c'est l'inégalité. Et l'inégalité est intolérable. Donc on va essayer de comprendre cette notion aussi un peu en creux. et par antagonisme avec son affreux contraire qu'est l'inégalité.
Alors il y a cette phrase de Jean Cocteau que j'ai quand même trouvé très drôle qu'on va sortir. La France a toujours cru que l'égalité consistait à trancher ce qui dépasse.
Bah oui.
Ça c'est Jean Cocteau.
Oui, j'ai voulu. Charlotte. Oui, Trenaud. Oui, c'est Jean Cocteau et on a voulu la mettre en valeur parce
ah
que
oui,
j'aime
toute une page. Là,
j'aime beaucoup cette citation et non seulement elle est sur une page citation, mais elle est aussi dans l'article.
Absolument. Oui.
Tout à fait. C'est une citation qu'on aime beaucoup, qui dit beaucoup de choses. Pour revenir sur l'égalité, je trouve que effectivement c'est le terme le plus difficile. Et d'ailleurs, Marlène Schiappa se sentait obligée de le qualifier. Elle parlait d'égalité homme-femme. On sent que c'est vraiment un concept compliqué à saisir. Mmh. Et c'est vrai que, pour tout vous dire, c'était un des articles les plus difficiles à écrire.
Certainement. Le concept chrétien de l'égalité, Bertrand Anville.
L'égalité, c'est que nous avons une égale dignité intrinsèque, foncière, c'est-à-dire que devant Dieu, nous sommes égaux de toute façon. Et donc, il y a là comme une matrice, si vous voulez, d'un regard à porter sur l'homme, où on ne peut pas, dans la structure même de la personne humaine, faire de distinguo entre les uns ou avec les autres.
Nous ne naissons pas égaux, de toute façon, c'est un fait, ne serait-ce qu'on peut naître beau, laid, dans un milieu pauvre, au mauvais endroit, au mauvais moment. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à cela ? C'est le rôle du politique, c'est de corriger le plus possible.
Bah, reprenons peut-être cette fameuse phrase de Cocteau. Ouais. Au lieu de couper les têtes, essayons de mettre à marche-pied pour rehausser les petits.
Et rehausser les têtes, ensemble. Fraternité ?
Fraternité.
Aha.
Comment peut-on être frère si on n'a pas de père ? Comment peut-on avoir cette version horizontale de la fraternité s'il n'y a pas un pan vertical qui nous tient les uns à côté des autres en frères ? Et peut-être que le problème, mais je ne vais pas empêcher nos lecteurs potentiels d'acheter et de lire cette revue, donc je ne vais pas tout dire.
Qu'on trouve en kiosque et en librairie.
Et en librairie, et en ligne pour ceux qui seraient à l'étranger. Oui. Mais peut-être que le problème de la fraternité, c'est un déficit de paternité. Et on peut mettre bien des choses derrière le mot père.
Alors, on terminera par une question qui va être très, très débattue. Lors de la campagne présidentielle, c'est la question migratoire. Parce que la dernière partie, il faut le dire, effectivement, vous n'êtes pas uniquement dans la réflexion, mais il faut être aussi dans la proposition. Hein. Charlotte Trenaud, ça vous y avait tenu, la partie. Donc, oser, hein, vous l'appelez oser, ce sont des propositions. Alors, je lis concernant la question migratoire. C'est un sujet, effectivement, que vous traitez de façon assez originale, oui. Avec un contrat. Vous parlez d'un contrat dit de commensalité pour accueillir les étrangers. Alors, l'accueil de l'étranger, qui divise, hein, même au sein de la communauté chrétienne, il faut le dire clairement, hein,
sûr,
ça
oui.
divise. Il y a ceux qui sont pour l'immigration zéro, les autres pour l'immigration très ouverte. Mmh. Donc, comment vous abordez cette question, précisément ?
Alors, on essaye.
C'est un compromis ?
En tout cas, comme chacune des propositions que nous avons faites, l'idée est de partir d'un constat, de faire un détour par l'expertise chrétienne pour le décliner d'une manière pratique. Donc il y a toujours un tir à trois coups, nous constatons état des lieux. Deuxièmement, nous allons faire un détour par notre propre expertise chrétienne. Et troisièmement, nous essayons de donner des déclinaisons pratiques.
Le constat, c'est déjà le phénomène migratoire va se poursuivre.
C'est un phénomène qui nous transcende, dont nous n'avons pas la maîtrise et la mesure. Je regardais ce matin l'actualité. Il se passe des choses terribles à la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole sur le continent africain. Ça, c'est le constat. L'expertise, c'est qu'il y a, mais je suis en train de tout dévoiler là, l'expertise, c'est qu'il y a à la fois un appel à la fraternité universelle, et un chrétien ne peut pas
être insensible à ce qui se passe en Méditerranée, par exemple.
Le pape François s'est rendu bien des fois à Lampedusa, par exemple, oui. qui est la porte d'entrée de beaucoup de migrants dans le bassin méditerranéen. Et en même temps, la Bible nous rappelle qu'il y a une fraternité en Adam et une fraternité en Jésus-Christ. Alors, c'est un peu technique, mais finalement, il peut y avoir peut-être des différents degrés dans l'incorporation à un pays, à un peuple, à une nation. Et ainsi, la commensalité, qui est un terme un peu étonnant, la commensalité, c'est l'art d'être à table ensemble. Et donc, peut-être que l'on peut se dire, je sais qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent sur d'autres continents, les us et coutumes, par exemple, des repas ne sont pas les mêmes. Je me suis rendu bien des fois en Afrique, il vaut mieux se faire un peu expliquer comment il convient de se tenir si l'on ne veut pas, d'une manière bête, froisser ceux qui nous invitent. Et ainsi, quand nous recevons à notre table des personnes qui viennent d'une autre culture et d'une autre tradition. Donc le contrat de commensalité veut se dire qu'il y a des droits et des devoirs, et il y a aussi sans doute des us et coutumes à intégrer pour pouvoir prétendre à être une en vraie fraternité, parce que le père est commun et que les branches filles peuvent se rejoindre, cousines qu'elles sont.
En termes concrets, ça veut dire accueillir, oui. Accueillir avec des quotas. Alors, vous n'en parlez pas, là.
Non, on n'en parle pas à dessein parce que on estime que nous n'avons pas l'expertise suffisante pour entrer dans ce degré de détail.
Oui.
Là, plutôt, l'idée, c'est de faire penser, de faire réfléchir en disant il y a peut-être une autre manière d'aborder le sujet que la manière purement statistique, que la manière purement économique ou que la manière purement idéologique qui n'est pas meilleure.
Vous parlez d'un contrat moral entre celui qui est accueilli et celui qui accueille.
Oui.
C'est cela, en fait, la commensalité. Je vous remercie, Père Bertrand Auville. Merci, Charlotte Reynaud, pour cette présentation de Philadelphia. Donc, je le rappelais, c'est un magazine annuel. Mmh. Donc, ça veut dire rendez-vous dans un an, en plein cœur de la campagne présidentielle.
Oui, certainement, en plein cœur de la campagne présidentielle. Donc, évidemment, cela va peser dans le choix du futur sujet, sur lequel nous avons déjà quelques idées, mais nous garderons pour nous pour le moment.
Suspense.
Merci à vous deux. Donc, Philadelphia, que l'on peut acheter en kiosque, en librairie et en ligne.
Sur le site de l'éditeur, première partie.
Merci à vous deux.
Merci à vous.
D'échéance politique dans le dernier livre de Jean-Pierre Denis, Les catholiques, c'est pas automatique aux éditions du Cerf. En revanche, cet essai prend un vrai relief avec la sortie progressive du déconfinement en attendant les autres échéances à venir. Jean-Pierre Denis, ancien directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie, développe aujourd'hui de nouveaux médias dans le groupe Bayard qu'il a rejoint. Son essai, au titre curieux, vient en fait rejoindre les ouvrages qui s'interrogent actuellement sur le sens spirituel à donner à la pandémie du Covid. Jean-Pierre Denis.
Mais finalement, on est très bon pour apporter des réponses techniques à la pandémie et aux crises que nous traversons, bien meilleur qu'on ne le dit. On a inventé des vaccins assez rapidement, on s'est adapté, chacun s'est adapté comme il pouvait, mais on s'est adapté à vivre confiné, à vivre différemment. Mais il y a une question qui n'a pas été posée, qui a été laissée de côté, c'est spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le sens de ce que nous vivons et qu'est-ce que ça transforme ? Parce qu'on ne fera pas croire qu'un événement aussi important, complètement inédit, inouï, personne n'a le souvenir d'un tel événement, si ce n'est en remontant très 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 loin dans nos mémoires, j'allais dire archaïques, les épidémies de peste ou de choléra, personne n'a le souvenir d'avoir vécu un moment comme celui-là. Et on ne me fera pas croire que vivre une telle épreuve n'ait pas un sens sur le plan spirituel. D'ailleurs, quand on ouvre la Bible, mais alors à n'importe quelle page, hein, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, on voit que constamment, il s'agit de ça, Dieu parle aux hommes, les hommes parlent à Dieu, il se passe quelque chose et dans l'épreuve que l'on vit, il y a un sens. Alors on peut discuter de ce sens, évidemment, on peut se disputer sur ce sens, il n'est pas évident en réalité de le trouver, mais que la question du sens soit posée, c'est absolument évident quand Dieu envoie les plaies d'Égypte. Ouvrez ces passages-là dans la Bible, vous verrez que ça a un sens. Mais quand Jésus accomplit des miracles, pour prendre un exemple positif, évidemment ces miracles ont un sens. Donc les signes de Dieu sont partout dans la Bible. Et quand il y a eu le Concile Vatican II, il y a maintenant donc un demi-siècle, une des phrases les plus fortes du Concile, ça a été de dire « il faut lire les signes des temps, les signes des temps ». Donc ça a été inventé ça dans les années 60, dans une perspective évidemment, dans un contexte évidemment optimiste, les signes des temps, c'est-à-dire cette époque merveilleuse que nous sommes en train de vivre, celle de la décolonisation, celle du progrès technique, etc.
La guerre froide aussi quand même.
Oui, mais dans l'esprit des gens du Concile, c'était je pense beaucoup ça. mais c'était cette espèce d'optimisme, en fait, de l'Église conciliaire, ça a du sens. Mais si c'est vrai quand ça va bien, c'est aussi vrai quand ça va mal. Ça ne marche pas dans un seul sens.
Alors, cela dit, Jean-Pierre Denis, le sens, chacun peut le trouver. Vous l'écrivez d'ailleurs, hein. Les écologistes vont dire bah, c'est la nature qui se venge. Les altermondialistes vont dire bah, il est peut-être temps de mettre fin à la mondialisation. Les collapsologues vont dire bah, voilà, c'est la fin du monde, en fait. Donc, chacun peut y mettre du sens, et un sens qui n'est pas forcément métaphysique.
Oui, oui, et d'ailleurs, c'est assez amusant, effectivement, quand on fait, comme vous commencez à le faire, la liste de ces interprétations toutes faites, évidemment, on n'en finit pas. Mais moi, mon approche, elle est peut-être plus modeste. Je ne prétends pas apporter des réponses. Je ne prétends apporter que des questions. Je veux dire, pourquoi faire un livre si vous n'apportez que des questions?
D'où la formule du livre, qui est un dialogue avec un contradicteur imaginé.
Ce contradicteur imaginé qui est peut-être vous ou qui est peut-être moi, allez savoir, c'est l'objection que je me fais à moi-même en marchant. Et je crois que c'est une façon de réfléchir qui n'est pas nouvelle. Hein. Je ne vais pas vous dire que je suis Socrate qui imagine son dialogue philosophique et qui se met en scène. Je ne suis certainement pas Socrate, mais je suis un chrétien qui se pose des questions et qui dialogue avec lui-même. Et je pense que c'est une autre façon d'aborder justement cette question du sens. Il y a beaucoup de marchands de vérité, plus ou moins d'occasion, plus ou moins frelatés, mais qui vous disent « j'ai la vérité » et moi je vous dis « j'ai pas la vérité, j'ai des questions ».
Beaucoup, beaucoup de questions. Alors, est-ce que c'est ce que l'on appelle le kairos, le moment effectivement, de changer d'orientation, de changer de mode de vie?
Mais c'est ce qui est évident, c'est que c'est un moment. Et que c'est le moment. Le kairos, c'est l'occasion, dans la mythologie grecque, c'est ce jeune éphèbe qui a le crâne rasé, une touffe de cheveux, il passe, et il faut réussir à l'attraper par les cheveux au moment où il est en train de passer. C'est absolument évident. Et pour donner un exemple assez précis et qui est quand même assez frappant, les églises, dans beaucoup de pays, c'est le cas évidemment en France, mais pas seulement en France, ont été fermées pendant le premier confinement en particulier. Mais si on va en Belgique, ça a été des restrictions beaucoup plus longues, etc. Dans beaucoup de pays, les églises ont été fermées. Mais si les églises sont fermées, si le corps du Christ est rendu inaccessible, ça ne peut pas être neutre d'un point de vue chrétien, d'un point de vue catholique. Les églises fermées, ce n'est pas juste un problème technique. C'est évidemment une réponse à une situation dans laquelle on a dit « bon, les activités non essentielles sont interrompues ». Mais une société qui considère que la culture est non essentielle, ça dit quelque chose. Une société qui considère que le culte est non essentiel, ça dit aussi quelque chose. Et donc, à partir de cette constatation, qu'est-ce qu'on en tire comme chemin spirituel? Moi, j'étais assez frappé pendant cette pandémie de quelques tentatives d'interprétation sur lesquelles je m'appuie. Notamment, j'étais à l'époque directeur du magazine La Vie et j'avais publié un texte d'un théologien tchèque, Thomas Halík, qui disait en substance « Les portes des églises sont fermées, c'est la preuve que Jésus a frappé et il est sorti. » Et finalement, c'est ce christianisme en sortie dont parle le pape François, c'est-à-dire comprendre que ce que nous vivons, et qui s'est manifesté aussi de manière tellement terrible et spectaculaire dans l'incendie de Notre-Dame de Paris, ça a un sens symbolique. Ces églises interdites, ces messes impossibles, cette cathédrale qui brûle, tout ce que nous vivons, alors peut-être on dire qu'est-ce que c'est que cet illuminé qui voit la main de Dieu dans tout ce qui arrive. Je comprends qu'on puisse le penser comme ça, c'est évidemment pas ce que je veux dire, mais dans la foi chrétienne, l'expérience humaine, elle est le lieu de la rencontre avec Dieu et elle est le lieu de la conversion. Je crois que c'est surtout ça le fond de la question. Est-ce que ces temps d'épreuve sont des temps de conversion?
Alors, précisément, cette pandémie est arrivée pour l'Église à un très mauvais moment, au moment de ce qu'on appelle la crise de la pédophilie, qui l'affaiblit évidemment énormément.
Ah ben, on peut faire la liste des crises, et d'ailleurs je la fais parce que je crois qu'il y a un droit d'inventaire, comme disait l'autre, hein, donc il faut aussi avoir le courage de le faire. On pourrait rajouter des événements traumatisants, l'attentat de Nice, où des chrétiens, un sacristain, des dames qui venaient prier ont été assassinées, l'assassinat du père Hamel. Donc il y a un empilement d'événements traumatiques. Et les abus sexuels sont le traumatisme des traumatismes, parce que c'est à une échelle qui dépasse parfois l'entendement. Donc ça veut dire que ce christianisme-là, il est moribond. Ça ne veut pas dire que le christianisme est moribond, et ça fait une énorme différence. Ça veut dire que nous sommes à un moment charnière, et en fait, une crise comme celle du coronavirus, elle vient accélérer en fait des processus qui étaient déjà à l'œuvre. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu d'autres problèmes, la crise du coronavirus n'aurait pas, par exemple, pour prendre d'autres exemples, des couples qui sont en difficulté vont se retrouver dans le huis clos du coronavirus et ça va les remettre encore plus en difficulté. Ou ça peut jouer évidemment positivement. Donc c'est un accélérateur de changement dans les vies individuelles. Beaucoup de gens disent « je ne veux plus vivre comme avant », mais aussi dans la conception même que nous avons des faits culturels majeurs, et la religion fait partie des faits culturels majeurs. C'est un fait social, évidemment, fondamental.
Effectivement, et dans la conception que l'on se fait de la vie, de sa pratique religieuse. Qu'est-ce qui va changer demain? Vous parlez d'une église post-eucharistique.
Oui, alors je suis un petit peu provocateur, parce que, bon, c'est vrai que moi, je vous ferai une confidence, je suis catholique, ça, peut-être ça ne vous surprendra pas, vu le sujet, vu le titre du livre, et même, je dirais, je suis catholique par ce lien vraiment très fort avec l'Eucharistie, et donc pour moi, c'est quelque chose de très important. Et je suis d'autant plus, du coup, à l'aise pour dire, je pense que ce modèle qui a été celui qui s'est bâti entre le Concile de Trente et en réalité le Concile Vatican II, qui est un modèle qui consiste à pousser de plus en plus à l'Eucharistie pour tous.
Au centre de la vie chrétienne.
Au centre, source et sommet de la vie chrétienne, dit le Concile Vatican II. Ce modèle-là, il est arrivé à son terme. En fait, on fait semblant parce qu'on n'a pas envie de le reconsidérer, puisqu'il n'est pas évident, c'est pas évident du coup de le reconsidérer. Pourquoi c'est pas évident de le considérer? Parce que face au protestantisme, c'est devenu quelque chose d'absolument fondamental pour l'identité catholique. Et donc, remettre en cause ce modèle-là, c'est très compliqué. Moi, je ne le fais pas de gaieté de cœur parce que j'aime ça. Vous voyez, quand je vais à la messe le dimanche, l'Eucharistie, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Donc, simplement, j'observe un phénomène lent. On voit une montée de l'Eucharistie pour tous. En particulier, un moment très important, c'est le pape Pie X qui veut vraiment favoriser la communion des enfants, qui veut, parce que finalement on est arrivé à considérer que tout le monde était indigne de la communion, donc il dit vous êtes tous dignes de la communion. Donc on a multiplié cet accès à la communion. Pourquoi? Dans une perspective d'évangélisation. Or, vous avez peut-être remarqué comme moi que, en tout cas en France, en Occident, l'évangélisation ces dernières décennies n'avait pas été un succès extraordinaire. Donc quand on voit la succession de ces événements, on est obligé de remettre beaucoup de choses en question, et notamment cette chose-là. Ce n'est pas pour dire que l'Eucharistie n'est pas importante, ce n'est pas pour dire que l'Eucharistie n'est pas un sacrement, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire, c'est pour dire qu'en fait, il faut inventer aujourd'hui, à partir de là, une église en sortie. Donc c'est changer le mouvement. Au lieu de, finalement, de se dire, bah, allez, on se retrouve tous à l'église le dimanche, nous on vous attend, si vous venez pas, tant pis pour vous, bah, il faut inventer une église missionnaire, une église attestataire. J'exprimais d'ailleurs dans un précédent livre, je crois fondamentalement que c'est ça que ça veut dire. Il faut sortir de l'Église pour qu'on revienne à l'Église.
Sur le titre, hein, les catholiques, c'est pas automatique. Hein. Quelques mots, Jean-Pierre Denis.
Ben, vous avez peut-être remarqué...
Ça vient comme un refrain tout au long du livre.
Vous avez peut-être le souvenir d'une campagne de santé publique il y a quelques années. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Vous savez que plus les gens consomment d'antibiotiques, moins les antibiotiques sont efficaces. Ben, c'est la comparaison que je fais aujourd'hui. Alors vous allez peut-être me dire qu'elle est un petit peu tirée par les cheveux ou curieuse, mais alors, c'est un peu une façon d'aborder le sujet aussi en souriant. Je trouve qu'il faut, pouvoir aborder des questions graves sur un ton léger. On vit une époque très dure, on vit une époque de pandémie, il y a des morts, il y a des souffrances. Bon, j'ai pas envie d'apporter à cette question, à cette ambiance-là déjà très morose, un ton sentencieux, des réponses toutes faites et une mine de carême. Donc j'ai décidé d'aborder ce sujet très sérieux sur un ton peut-être badin.
Jean-Pierre Denis et son livre « Les catholiques, c'est pas automatique » publié aux éditions du CERF. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous. Le coq chante.